Actu avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Bonjour et bienvenue dans C'est d'actu. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée aux JJCAS, les journées jeunes chercheurs en acoustique musicale, audition et signal audition. Alors, ces journées de rencontres entre jeunes chercheurs se sont déroulées à l'Institut d'acoustique de l'Université du Mans lundi 26 et mardi 27 janvier, juste après le Mans Sonore. Donc, l'événement est organisé par des étudiants du LOM, le laboratoire d'acoustique de l'université, en partenariat avec la Société française d'acoustique, le Collège doctoral des Pays de la Loire des sciences de l'ingénierie et des systèmes, la Société MAAGM et Radio Alpa. Je me suis donc rendu sur place toute la journée du lundi pour assister à cet événement et je vous en propose un compte-rendu d'un peu plus de 50 minutes pour vous parler de recherche en acoustique et vous allez voir que c'est plus facile à comprendre que vous ne pensez et je suis certain que ça va vous intéresser. Mais d'abord, une petite visite du laboratoire d'acoustique avec Luna Timbal, l'une des étudiantes organisatrices des JJCAS. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les organisateurs dans l'amphi d'Ève Martin dans l'épisode du mardi 20 janvier, disponible en podcast sur radioalpa.com. Mais tout de suite, c'est donc plonge avec moi dans le laboratoire. Visiter le laboratoire d'acoustique, c'est découvrir des machines bizarres qui mélangent par exemple instruments de musique et bras robotiques ou carrément des musiciens artificiels comme le MAD.
Là, en fait, quand on aspire, voilà, ça fait du son.
Pourquoi le MAD ?
Le musicien artificiel en dépression. Ici, il y a un bec avec une anche et on vient aspirer l'air. Et ce qui fait qu'ici, il y a une lèvre artificielle. Et avec l'aspiration, l'anche vient se coller au bec et ça imite vraiment la position du musicien. Mais en aspirant au lieu de souffler dedans. À l'inverse, donc, d'où en dépression. Voilà, c'est une sorte de bouche artificielle.
Et puis bien sûr, vient le moment d'entrer dans la salle anéchoïque. Une impression très étrange dans les oreilles. On est comme enfermé dans cette boîte de silence total, à croire que de l'autre côté des murs faits de polygones, c'est le vide spatial. C'est ici que Luna, qui nous fait la visite, nous raconte l'histoire du LOM.
Le LOM, il a été créé en 1980. Par le couple Michel et Anne-Marie Bruno. Donc en 1980, ils ont créé le labo pour travailler sur le haut-parleur. Le haut-parleur, c'est un objet qu'on savait construire, qui est bien connu. On en a des productions industrielles, etc. Par contre, on ne sait pas vraiment comment ça marche, et surtout, on ne sait pas le modéliser. Donc en premier, ils travaillent sur un modèle. Et ils créent un modèle. Ils créent un modèle, c'est un peu une usine à gaz, très compliquée. Et il n'a jamais été utilisé, parce qu'il y a Thiel et Small qui ont sorti leur modèle qu'on utilise énormément et qu'on continue à utiliser aujourd'hui. Et du coup, voilà. Le premier projet du laboratoire s'est fait damer le pion par les deux Australiens. Mais c'est pas grave, puisqu'il y a plein d'autres projets. Et maintenant, le LOM, le labo d'acoustique de l'Université du Mans, c'est le plus grand labo d'Europe, avec 160-170 personnes, en comptant les doctorants. C'est aussi le plus grand centre d'enseignement d'acoustique de France, avec 500 étudiants par an, licence, licence pro, master, master pro compris. C'est aussi le seul en France qui fait dès la licence.
Et là, l'intérêt de la salle anéchoïque, en fait, c'est quoi concrètement ?
C'est pour faire des mesures qui ont un faible bruit de fond. Donc une salle anéchoïque, déjà, il n'y a pas d'écho, puisque le son direct est entièrement absorbé par les murs. Au plafond et au sol, il y a aussi des dièdres. Ça, c'est un dièdre.
D'accord, donc c'est des espèces de polygones en mousse, voilà.
Et sinon, c'est aussi une chambre sourde. Là, on a bien vu, c'est un gros cube en béton. La salle est montée sur vérin, ce qui fait que les vibrations et le son extérieur ne rentrent pas. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui réfléchit sur les parois.
On descend encore en sous-sol et on pousse un mur. Un passage secret s'ouvre, on entre dans une salle semi-anéchoïque. Elle ressemble un peu à la salle précédente, mais le sol n'est pas une grille, c'est un vrai sol, donc le son s'y répercute. Là, une expérience est menée avec une armée de haut-parleurs. On entend Sultans of Swing de Dire Straits.
Là, c'est pour faire de la synthèse de chant, en l'occurrence des bulles sonores personnalisées ou sound zone. Et avec un champ de haut-parleurs, on va créer deux zones. Une zone où il y a du son, une zone où il n'y en a pas. Et si on fait ça deux fois, on a deux zones différentes qui sont là, éloignées d'1,50 m.
Représenté par deux tabourets, du coup.
Oui, représenté par deux tabourets, on vient s'asseoir sur les tabourets. Et dans ces deux zones, bah, y aura deux contenus audio différents.
Il se passe quoi quand tu vas sur les tabourets ?
Eh bien, la musique, on entend ici deux musiques qui sortent des haut-parleurs, et au fur et à mesure de où est-ce qu'on est dans la salle, y en a une qu'on entend beaucoup plus que l'autre. Je pense que ça pourrait marcher avec le micro s'il se baladait.
Un zéro de pression sur 2000 points, c'est beaucoup plus difficile que de pression sur 2 points.
Donc là sur le tabouret à droite.
Et moi ma thèse vise à améliorer ça. Je suis avec des microphones ambisoniques.
Le tabouret à gauche. Le tabouret à droite.
C'est plus simple de le faire avec un microphone virtuel qu'avec 2000 capteurs. Dès qu'on sort de la zone, ça va bien. Mais si on vient recréer virtuellement une antenne plus haute ou plus basse, sans avoir un risque de
on est dans la même pièce, 1m50 d'écart.
Je ne sais pas si vous l'entendez bien à l'enregistrement, mais sur place c'est flagrant. On entend la musique bien plus fort sur le tabouret de gauche, alors qu'assis sur le tabouret de droite, c'est à peine un bruit de fond. L'un des étudiants organisateurs de la JICAS nous explique l'intérêt pratique de ces bulles sonores.
On peut penser à des applications comme des musées par exemple, ou par exemple, quelques années je suis allé au musée de Montréal, de la ville de Montréal, et là ils ont un petit film au début de 30 minutes, où vous choisissez au début votre langue sur votre siège, entre anglais et français, et ensuite vous mettez votre casque. Mais on pourrait faire ça sans avoir de casque, où chacun aurait dans sa bulle sa langue sans avoir un casque en plus, juste à travers ce jeu d'interférences et autres. L'idée c'est qu'on a, à partir d'un champ de haut-parleurs, on peut venir recréer des champs acoustiques particuliers, comme par exemple un musicien au milieu de la pièce, qui n'existe pas, on a du vide, mais grâce à ce champ de haut-parleurs, on vient décaler le son qui est émis entre chaque source, et ce qui fait que quand elles arrivent en cohérence à un endroit, elles recréent une source virtuelle qui juste n'existe pas. Et vous avez un musicien, vous écoutez un musicien devant vous, mais il y a juste du vide, de l'air.
Donc on associe ça avec des hologrammes et on a un concert virtuel pour vrai.
C'est ça, voilà. Bon, après, si c'est pour écouter que des discours de Jean-Luc Mélenchon en hologramme, ça, on peut peut-être trouver d'autres choses à faire avec, oui, mais... Oui, c'est vraiment cette idée de recréer des espaces sonores très particuliers. Vous associez ça à un casque VR, par exemple, et vous déplacez sans avoir un casque aux oreilles dans un champ acoustique jamais expérimenté auparavant.
Aujourd'hui, c'est déjà envisageable ou c'est des projections ?
Il y a déjà des projets de recherche autour de ça, oui. Enfin, j'ai un ami qui est conférencier là, qui a déjà travaillé sur effectivement des fusions de casque VR et espaces acoustiques innovants comme ça.
La visite se termine, on va passer au mot d'accueil. Et pendant le mot d'accueil, les différents partenaires ont pris la parole pour ouvrir ces deux journées. Pascal Picard, vice-président de la recherche de l'université, et Jean-Dominique Pollack, président de la Société française d'acoustique, qui a beaucoup fréquenté le LOM. Les deux professeurs nous parlent des enjeux de ces JICAS au Mans.
Pourquoi c'était important pour le Mans de les accueillir cette année, ces recherches jeunes chercheurs ?
Ah bah, c'est important parce que, alors d'une part, l'accueil se fait ici à l'Institut d'acoustique du S-School, donc c'est quand même un centre de référence de formation. Faut savoir que c'est probablement le plus gros centre de formation de jeunes dans le domaine de l'acoustique en France et en Europe. Donc c'est important que ce centre puisse accueillir des manifestations qui regroupent des jeunes, qui vont pouvoir interagir, rencontrer des professionnels, s'enrichir et progresser dans leur cursus doctoral, bien entendu.
Et donc la Société française d'acoustique participe à l'organisation de cet événement, en tout cas elle le soutient. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer ce que c'est la Société française d'acoustique ?
Alors, la Société française d'acoustique est une société savante. Elle a été fondée par Yves Rocard, alors sous un autre nom juste après-guerre. Donc Yves Rocard, c'est peut-être pas la peine de le présenter, mais c'est le père de Michel Rocard. Et c'était surtout l'un des plus grands mécaniciens français dont les livres ont été traduits en anglais juste après-guerre, ce qui était assez rare. Donc c'est une société donc, qui défend l'acoustique et qui essaye d'organiser des événements et de mettre en relation tous les acousticiens français, qu'ils soient universitaires, ce qui est la grande majorité, ou même travaillant dans l'industrie ou dans les bureaux d'études, ce qui est une petite minorité, et c'est quelque chose que nous essayons de développer actuellement.
Et un événement pour mettre en avant la recherche des jeunes chercheurs, c'est essentiel dans cette démarche-là ?
Alors aujourd'hui, comme je le disais dans mon discours introduction, l'essentiel des activités organisées par les groupes spécialisés qui sont l'épine dorsale de la Société française d'acoustique. Il y en a dans tous les domaines de l'acoustique. Donc ces groupes spécialisés organisent régulièrement des réunions. Et aujourd'hui, ce sont principalement les jeunes chercheurs, donc les doctorants, les post-docs, qui vont organiser ces journées, ce qui est très formateur pour eux, puisque ça va leur apprendre à gérer un budget, prendre des contacts, ça va leur donner beaucoup de contacts pour pouvoir trouver un poste après. Enfin, c'est pour eux très, très important.
Et comme je le disais tout à l'heure, l'acoustique, c'est pas forcément évident à aborder pour le grand public, malgré tout. Là, en cherchant l'acoustique, ça a des conséquences concrètes sur le quotidien, sur différents aspects de la vie.
Alors, c'est tout à fait exact. L'acoustique, ça a l'air de... C'est quelque chose qu'on ne touche pas, donc c'est ce qui fait partie des ambiances, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas visuel, donc il y a peu de mots pour en parler, curieusement. À part la musique et le vocabulaire musical, il y a peu de mots. Mais nous subissons tous l'acoustique, le bruit dans la ville. Quand nous sommes dans une salle où il y a trop de monde, le bruit ambiant, ne pas comprendre ce qui va se dire dans un amphithéâtre, enfin, toutes ces choses-là font que c'est l'acoustique nous impacte tous les jours. Et je n'ai pas parlé des problèmes de voisinage, entendre son voisin à travers les parois, etc.
Et ces applications concrètes, on les constate dans les tests que travaillent les jeunes chercheurs. Pendant les JICAS, ils présentent leurs travaux à travers des posters qui résument leur démarche. J'ai pu discuter avec plusieurs d'entre eux. Et alors, puisqu'on parle d'acoustique, évidemment, plusieurs chercheurs travaillent sur la musique et ses instruments. Nathan Svelon cherche le moyen d'inventer de nouvelles sonorités pour la guitare.
Alors, je suis Nathan Svelon, je suis en deuxième année de thèse au LOM, laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Voilà.
Et vous faites une thèse à propos de la guitare. D'ailleurs, votre chemise est imprimée guitare, c'est important de le noter.
Exactement. Alors,
expliquez-nous un peu votre thèse.
Alors, en fait, ce qu'on essaye de voir, c'est que sur une guitare acoustique, il y a ce qu'on appelle la table d'harmonie. La table d'harmonie, pour faire simple, c'est la face avant de la guitare, donc la plaque de bois du côté des cordes. Et en fait, cette plaque-là, elle est faite d'une manière très précise. On a une plaque de bois, et au dos de cette plaque, on va venir coller plein de barres de bois pour former un motif spécial. Ce motif-là, il s'appelle le barrage.
Il y a ça sur toutes les guitares ?
Sur toutes les guitares acoustiques, il va y avoir un barrage. Enfin, la table d'harmonie va comporter un barrage, c'est ça. Et parce qu'en fait, il y a besoin de ce barrage-là pour que la structure soit assez raide, qu'elle puisse tenir toute la force de tension des cordes, et que la guitare implose pas sur elle-même. Et en plus... la forme du barrage, donc la forme des barres qui sont au dos de la table d'harmonie, va influer sur le son de la guitare. Certaines marques de guitare vont avoir une forme de barrage particulière qui va donner un son particulier de cette marque-là pour les guitares. Et ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on voudrait faire la même chose au labo, mais avec d'autres procédés de fabrication, donc on les fait plus... L'idée, c'est pas de le faire de manière... De manière artisanale, mais on a vu d'autres procédés comme de la découpe laser, un procédé qui n'est pas du tout utilisé pour la lutherie.
Il y a une raison à ça, peut-être, non ?
Simplement qu'une découpeuse laser, ça coûte pas mal d'argent et ça sort un petit peu d'un cadre artisanal, à un point de vue de certains, ce qui est complètement compréhensible. L'idée, c'est en fait surtout de voir si on fait ça de cette manière-là, avec la structure que nous, on a designée, ça marcherait. Voilà.
Avec une autre structure que celle qui est actuellement faite sur les guitares acoustiques.
Exactement, c'est ça. En fait, on a avec notre équipe, on a développé une structure qu'on est en train d'analyser et de raffiner, qui, normalement, permettrait de copier le comportement, donc de copier, entre guillemets, la sonorité d'une table d'harmonie faite par un luthier de manière normale, classique plutôt. En fait, on voudrait voir si ce que nous, on fait, ça ferait sonner pareil les guitares, tout simplement. Et pour ça, on a besoin de faire beaucoup de calculs pour comprendre comment ça se comporte, etc., de pouvoir prédire le son de la guitare, et que derrière, oui, ça se comporte vraiment comme une table d'harmonie qui serait faite chez un luthier de manière totalement classique, quoi.
Mais du coup, si je résume, vous voulez changer la structure de la table d'harmonie, oui. Mais pour qu'au final, ça fasse le même son que la table d'harmonie initiale.
C'est ça. C'est pour voir s'il y a d'autres manières d'arriver au même résultat, en fait. Parce que derrière, l'intérêt de cette structure-là, c'est que on aimerait déjà d'abord voir si ça permet à la guitare de sonner comme une guitare normale, mais après, l'intérêt, c'est de voir si on peut avoir une palette sonore plus raffinée encore. Jouer avec cette structure-là pour avoir des sonorités qui seraient vachement plus originales sur une guitare qu'on ne pourrait pas avoir avec une méthode classique, par exemple.
Donc les applications concrètes, après, c'est peut-être d'améliorer le son des guitares de manière générale.
Pas forcément améliorer, parce que c'est vraiment très subjectif comme question, mais plutôt de proposer d'autres sonorités pour les musiciens, les luthiers.
Okay. Donc application uniquement sur la guitare d'ailleurs, ça ne peut pas être d'autres instruments à cordes.
Rien n'empêche d'appliquer ce genre de technique sur d'autres instruments d'étape d'harmonie, notamment le piano par exemple. D'autres dérivés de cordophones ont aussi des tables d'harmonie.
Mais il faudrait d'autres structures par contre.
Il faudrait d'autres structures, d'autres manières de les représenter, de les calculer, etc. Mais l'idée est complètement applicable à d'autres instruments si on met, oui, entre guillemets, les efforts pour vraiment s'intéresser au cas particulier de cet instrument. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous a amené à faire des recherches là-dessus? Vous aimiez pas le son de votre guitare?
Non, c'est que je suis très impliqué dans la musique de manière générale. Je suis musicien, je suis ingé son, etc. Et j'aime bien aussi la physique, les maths et la recherche notamment. Et donc pouvoir allier tout ça en une activité, c'est quand même assez phénoménal. C'est surtout ça, de pouvoir un peu allier tout ce que j'aime en une seule activité, quoi, finalement.
Et vous en êtes où actuellement, du coup?
Au niveau des résultats, alors c'est difficile à expliquer. Ce serait difficile même pour moi à définir parce que on n'a pas encore de résultats concrets parce que ça demande beaucoup de temps de préparation, de calcul, etc. J'ai envie de dire qu'on est plus proche de la fin que du début, mais ça reste malheureusement très vague. Je pourrais pas malheureusement être plus précis encore.
On entrerait dans des sujets beaucoup trop complexes, j'imagine.
C'est un peu compliqué de pouvoir dire on en est à 50%, 40%. C'est encore un peu compliqué de définir ce genre de progression.
Okay. Puis c'est aussi l'enjeu de la recherche, c'est que si ça se trouve, on fonce dans le mur.
Mais c'est ça, exactement.
Joris Agathor, lui, a une théorie. On ne joue pas un même morceau de musique de la même façon suivant ce qui nous entoure.
Moi, c'est Joris Agathor. Donc, je suis doctorant en dernière année au laboratoire Prism à Marseille. Donc, je travaille sur l'influence de l'environnement acoustique sur l'interprétation musicale.
Alors, c'est-à-dire on joue différemment suivant l'environnement où on est?
C'est ça. En fait, suivant la salle dans laquelle on va jouer. Il y a plein d'études qui ont été menées, justement, que ce soit des fois dans différentes églises, etc., où les musiciens vont donc être... On va leur demander de jouer un même morceau et ils vont jouer de manière différente, des fois plus rapidement, plus lentement, plus fort, moins fort. Voilà, il peut y avoir plein de différences. Alors, l'un des défauts qu'il y a, notamment dans toutes ces études-là, c'est qu'elles s'intéressent vraiment à des acoustiques réelles qui vont être très complexes, avec beaucoup, en fait, d'échos, de paramètres, plein de paramètres différents. Ce qu'on a cherché à faire au travers de notre recherche, c'est justement de simplifier au maximum, finalement, de déconstruire même plutôt les environnements acoustiques pour derrière voir quels paramètres vraiment avaient une influence et quelle influence sur l'interprétation musicale.
Oui, donc en gros, vous essayez d'identifier ce qui, dans l'environnement, modifie notre manière de jouer.
C'est ça. Exactement.
Et alors, sur quelle piste vous êtes actuellement?
Là, nous, la piste sur laquelle on est parti au début, c'est un peu sur celle des échos et des premières réflexions, donc qui vont être souvent, en fait, la première partie de réponse d'une salle. Et du coup, on s'est intéressé notamment à l'effet justement de ces échos, du délai des échos sur le tempo. En fait, on a vu quelques exemples d'études auparavant qui, justement, le résultat courant était que quand le temps de réverbération augmente, donc la durée où la note tient dans la salle, plus les personnes ralentissaient. Mais il y avait quelques contre-exemples. Et donc, la question, c'est pourquoi ces contre-exemples, finalement? Et donc, nous, voilà, c'était notre piste, c'est les échos. Et donc, on a cherché à regarder plusieurs échos et sur un rythme assez simple que même des non-musiciens pouvaient jouer, en fait. On a vraiment cherché à faire quelque chose d'un peu d'assez global. Et donc, du coup,
vous donnez un rythme simple à jouer, voilà. Les personnes essayent, vous modifiez des paramètres d'environnement pour voir ce que ça change.
C'est ça. Alors le rythme, il est assez simple, c'est ta 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 ta. Donc tous les non-musiciens peuvent le jouer aussi. Et donc du coup, on mettait juste un écho avec différents délais par rapport effectivement au tempo et au rythme, et on s'apercevait que suivant si l'écho est tombé juste avant la note suivante, les participants accéléraient, si l'écho était juste après, les participants ralentissaient. Ouais, ça c'est vraiment le résultat principal.
Est-ce qu'ils s'en rendaient compte?
Pas forcément. On est sur des variations qui sont quand même assez faibles, mais qui des fois sur des morceaux longs peuvent se traduire justement par des variations notables, en tout cas d'un point de vue de la durée. Et du coup, donc ça, c'était notre première expérience. Et la deuxième expérience, donc on a voulu compléter un peu notre modèle de juste des échos en rajoutant une réverbération tardive, donc vraiment justement en allongeant la durée des notes avec une décroissance. Et on s'est aperçu que ça qui était censé avoir une influence d'après la littérature, dans notre cas, dans notre production rythmique, on n'en avait pas d'influence.
Alors, juste un point sur ce terme de littérature, j'imagine qu'on ne parle pas de bouquins.
Non, non, on parle effectivement de tous les articles scientifiques qui ont été produits auparavant. C'est ça, il y a plein de personnes et depuis de nombreuses années, des chercheurs auparavant qui ont fait, qui ont justement mis les musiciens dans les salles et on leur a demandé de jouer différents morceaux et de, en changeant l'acoustique, etc. et de voir l'évolution.
C'est l'ensemble de la recherche scientifique déjà existante.
C'est ça la littérature, c'est les études antérieures.
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à mener ces recherches-là? Quel est l'intérêt en fait pratique de ces recherches?
En fait, nous, l'intérêt et le cadre plus global dans lequel ça se pose, c'est vraiment comprendre la perception de l'espace sonore. Parce que c'est... Donc l'espace sonore, c'est quelque chose auquel on est toujours confronté. L'espace dans lequel on est va toujours avoir une réponse, une influence sur le son qu'on entend. Et du coup, on se pose la question, comment celle-ci peut influencer finalement notre perception. Or, du coup, dans un premier cas, nous, on s'est mis dans un contexte actif, où ça va être des personnes qui vont produire le son, qui vont être influencées. Donc vraiment le cas, justement, de l'interprétation musicale. Mais en fait, l'idée encore plus lointaine, ce serait de pouvoir créer par exemple des espaces acoustiques virtuels, mais à partir de l'effet qu'on veut donner aux personnes.
Avec un système de bulles sonores là encore ou pas ?
Ce serait, peu importe la manière de le restituer forcément cette acoustique. Il y a plein de méthodes et... que ce soit au casque avec des méthodes binaurales. Alors même des fois on pourrait
binaural qui passe dans les deux oreilles,
c'est ça. Ça pourrait même être sur du son mono, mais après on peut aller même justement sur des modélisations de son 3D, donc justement binaural, ambisonie, WFS.
On part sur des trucs techniques.
C'est des trucs très techniques, mais c'est des technologies qui permettent de faire du son en 3D par exemple. Et donc du coup, à partir desquelles on pourrait recréer justement des acoustiques et dans lesquelles on pourrait par exemple jouer. L'un des exemples en fait que j'aime bien prendre par exemple, c'est, ce sera je pense pas un spoil, mais à la fin de Star Wars 1, il y a un duel qui se fait dans une salle ronde avec un grand puits au milieu. C'est quoi l'acoustique de cette salle? Comment on la perçoit? En fait, c'est un peu cette question-là, cette grande question-là qui est, en tout cas, derrière mon travail de recherche.
Ok, je comprends l'exemple. Et alors, simplement, enfin, on est au Mans, on vient tout juste de sortir de la Biennale du son Le Mans sonore, et je ne peux pas m'empêcher de penser au dôme sonore, justement, qui est un environnement très particulier. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un élément intéressant à étudier dans le cadre de vos recherches, ou c'est un environnement qui est trop complexe, trop de paramètres?
Je ne connais pas, malheureusement.
Ah, vous n'êtes pas du Mans, oui.
Non, je ne suis pas du Mans, donc...
C'est un énorme dôme, alors je ne saurais pas dire précisément comment il est construit, mais voilà, c'est une espèce d'attraction de Le Mans sonore qui a justement apparemment un intérêt très particulier pour son acoustique. Voilà.
C'est un peu, de toute façon, ce serait un peu l'idée, c'est de comprendre comment en fait, qu'est-ce que ce dôme-là, il va avoir comme particularité dans la perception, dans la manière que les gens vont avoir de le percevoir, et derrière de se dire, moi je veux créer l'acoustique du dôme de manière virtuelle, sans passer par les calculs physiques, mais vraiment juste par les aspects perception, quoi.
Merci beaucoup.
De rien.
Mais la recherche en acoustique, ça n'est pas que la musique. Clara Boukemia s'interroge aussi sur une problématique de notre environnement, mais cette fois dans le cadre du travail. Comment réduire le bruit des open space?
Je m'appelle Clara Boukemia et je suis en deuxième année de thèse à l'IRCAM à Paris.
Et alors, sur quoi porte votre thèse du coup?
Alors, ma thèse, c'est sur le bruit dans les open space. En fait, l'idée, c'est de traiter des sons qui peuvent être gênants et venir distraire les travailleurs. Parce que les open space sont assez, par définition, ouverts et donc il y a beaucoup de bruit. Et donc c'est une problématique assez actuelle. Et on essaye de trouver des solutions un petit peu novatrices qui puissent continuer la recherche déjà bien avancée.
Et d'ailleurs, vous expliquez dans votre présentation que ce bruit, c'est pas forcément du bruit fort en fait.
Tout à fait. En fait, le niveau sonore est le premier facteur qui est responsable de la gêne, mais on s'est rendu compte que même en le baissant et avec des sons, avec des niveaux satisfaisants, la gêne persiste avec justement plein de petits sons qui sont gênants, non pas par leur niveau, mais par d'autres caractéristiques. Ça peut être parce qu'ils sont trop différents des autres, ça peut être parce qu'ils sont aigus, graves, des choses comme ça.
C'est quoi comme son par exemple du coup?
Ça peut être par exemple, oui, des bruits de clavier un petit peu forts, des bruits de bouche. Parce que les bruits de bouche, par exemple, on n'est pas censé les entendre dans un environnement, Mais la proximité des gens et le niveau très faible de bruit de fond vont faire qu'on va entendre des bruits de bouche, ça va nous gêner parce que souvent il y a des des réactions un petit peu viscérales, on va dire, des gens. Voilà, c'est des exemples.
Mais alors, concrètement, quelles solutions on peut apporter à ça ? C'est vrai qu'a priori, on se dit, un espace ouvert, il y a des gens, forcément, il y a du bruit, quoi.
Tout à fait. Alors, notre approche, évidemment, donc, c'est pas de faire du traitement acoustique, ce serait plutôt, en fait, d'aller du côté du masquage sonore. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que forcément on va rajouter du niveau, puisqu'on rajoute des sons à l'environnement sonore existant. Là, l'idée c'est d'opérer comme une transformation de l'environnement sonore qui n'est pas forcément à première vue perceptible, qui ne va pas venir distraire en plus, mais qui s'intègre vraiment dans l'environnement actuel pour le rendre mieux perçu. Après, il y a d'autres. On pourrait penser à d'autres systèmes, par exemple le design tout simplement des bureaux. En fait, le souci, c'est que dans ce type de bureau-là ouvert, il y a beaucoup de tâches différentes qui rentrent, qui sont performées en même temps, et c'est ça qui crée un peu de gêne sonore. Par exemple, les gens qui vont devoir passer des coups de fil et des gens qui vont devoir absolument se concentrer sur une rédaction. Forcément, les deux collent pas dans le même espace. Voilà.
Des bureaux anéchoïques, ça serait possible?
Alors, ce serait sûrement possible d'un point de vue technique, mais je pense pas que ce serait très, très aidant dans le sens où il y a quand même une fonction du bruit qui permet de concentrer son attention sur quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles écoutent de la musique, par exemple, en travaillant, parce que ça les aide à déjà se motiver, et puis aussi le fait d'avoir un son, de focusser leur esprit sur quelque chose, et ça leur permet de se concentrer sur leur tâche. Donc le bruit, je pense, est essentiel.
Je précise que salle anéchoïque, c'est les salles qui retirent tout l'écho. Voilà, donc c'est ce qu'on a visité pendant la visite du lot, mais que vous avez sans doute pu écouter au début de cette émission. Quand vous parliez de masquage sonore, est-ce que vous faites référence à des bulles sonores ? On a pu en parler un petit peu au cours de la journée.
Oui, alors ça peut. Ici, là, on n'est pas à un stade où on pense en termes d'espace. Là, on essaye, enfin, en tout cas dans le cadre de ma thèse, on essaye plutôt de confirmer une hypothèse qui serait que l'ajout de son puisse être bénéfique dans l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Mais c'est vrai que pour aller plus loin, on peut penser à des espaces bien spécifiques où on aurait comme un parcours sonore dans l'espace, c'est-à-dire qu'une zone où on a tel environnement sonore, puis on passe à une autre et on en a un autre. Voilà, c'est aussi une voie très intéressante.
Mais du coup, ça passerait, dans tous les cas, ça passerait par un aménagement de la pièce, un équipement de la pièce, plus qu'un équipement des personnes individuellement, quoi.
Oui, oui, tout à fait. L'idée, ce serait plutôt, du coup, d'équiper, déjà, de designer les bureaux de manière à séparer les zones par activité, et puis potentiellement d'utiliser, par exemple, des haut-parleurs très directifs qui puissent couvrir, ajouter de l'environnement sonore sur une zone en particulier.
Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler là-dessus ? Vous travaillez en open space,
Alors, ça fait pas très longtemps que je suis dans le monde professionnel, on va dire, mais mon bureau, oui, on peut dire, est en open space assez réduit quand même. Mais il arrive que j'entende mes collègues faire des réunions pendant que je travaille sur une rédaction, donc je suis, on va dire, potentiellement gênée parfois par le bruit au travail. Mais non, c'est ce qui m'a poussée à travailler là-dessus, c'est plutôt l'idée de confort sonore du quotidien. Voilà, le fait d'aider des gens à avoir une meilleure qualité de vie grâce au son.
Et pour éviter d'avoir systématiquement recours au casque sur les oreilles, du coup.
Aussi, puisque ça peut être un vrai isolement. Voilà, d'ailleurs, dans les bureaux et comme dans la vie de tous les jours, dans les transports, donc qui n'est pas forcément bénéfique, selon le cas, je trouve.
Pas forcément bénéfique pour la santé des oreilles aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup. Michel El-Khoury, de son côté, a un projet insolite, créer des sons pour correspondre à des odeurs.
Donc, je m'appelle Michel, je fais une thèse à l'IRCAM et à IFF. L'IRCAM est un institut d'acoustique et de musicologie, de recherche, et IFF est une entreprise de parfums. Et moi, je m'intéresse sur la cross-modalité entre les sons et les parfums.
C'est étonnant, ça. On ne voit pas trop comment ça peut s'associer, son et odeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Dans mon cas, dans ma thèse, on essaie de trouver un lien à travers les émotions. Donc on essaie de trouver si les émotions peuvent, d'une manière indirecte, associer les sons au parfum. Donc on se pose la question, si un son me fait sentir de la joie et une odeur me fait sentir de la joie, est-ce que je les associerai directement grâce à cette émotion ?
Et ça veut dire qu'il faut pouvoir mesurer les émotions ?
Oui, exactement.
C'est possible, ça?
Non, il y a plusieurs manières. Il y a des manières un peu physiologiques, donc vraiment, on fait des mesures sur le cerveau, sur le corps, sur le cœur, par exemple, des trucs comme ça. Mais moi, ce que je fais, c'est des mesures subjectives. Donc, on pose la question aux participants d'associer des sons à des émotions. On leur dit, maintenant, vous allez vous concentrer sur la joie. Choisissez 10 sons entre les 80 sons que moi, j'ai choisis. Choisissez 10 de ces 80 qui vous font sentir de la joie.
Vous mélangez données empiriques observables et aussi les témoignages de vos sujets d'études ?
Il n'y a pas vraiment de témoignages, c'est vraiment des mesures subjectives, c'est des choix subjectifs. Donc c'est des participants qui, selon leur expérience émotionnelle, choisissent les sons. Après, comme moi j'ai 60 participants, je peux voir une tendance chez tous les participants pour dire normalement ce son il devrait bien évoquer de la joie parce qu'il y en a 50 de mes 60 participants qui l'ont choisi pour la joie.
Alors, j'ai envie de dire, il y a différentes nuances de joie, différents degrés de joie. Donc à partir de là, comment, par exemple, quelqu'un qui vous dit cette odeur me fait sentir de la joie, quelqu'un d'autre qui dit aussi que cette odeur lui fait sentir de la joie, est-ce que vous allez en déduire le même son, entre guillemets? En gros, est-ce que le son est associé seulement à une émotion type ou à l'émotion d'une personne précise?
Ok, pardon, merci. c'est plutôt... Non, c'est sûr qu'un son ou bien une odeur peuvent être associés d'une manière très répartie sur plusieurs émotions. Je peux choisir ce son pour plusieurs émotions parce que ça me fait évoquer plusieurs émotions, c'est normal. Mais nous, ce qu'on essaye de trouver, c'est plutôt des représentants, des prototypes de chaque émotion. Donc, on voit les tendances pour dire, si on voit les top sons et les top odeurs de chaque émotion, on pourrait dire que ça, c'est des prototypes, des représentants de ces émotions.
D'accord. Voilà. L'idée, c'est de créer des modèles de sons d'émotions, quoi. Enfin,
des représentants ou des prototypes, on les appelle.
Et alors, quelle finalité, en fait, de cette association entre son et odeur? Pourquoi faire ça?
Alors, nous, on veut bien trouver on veut déjà prouver que cette hypothèse est correcte, qu'elle existe, que les émotions peuvent médier les associations son et odeur. Et après, on fait une étude statistique, une étude acoustique, pour trouver des descripteurs de musique ou de timbre qui décrivent, qui représentent chaque émotion. Et à travers ça, on pourra dire un son joyeux, c'est plutôt un son qui est brillant, c'est un son qui est rugueux, c'est un son qui est mat, c'est un son qui est chaud. Voilà, c'est à travers ces analyses-là qu'on pourra dire un son qui est joyeux, il est plutôt rugueux, brillant, je ne sais pas, etc. Et comme on a dit qu'un son joyeux est comme ça, on peut dire une odeur joyeuse, elle est représentée par un son qui est brillant, qui est rugueux.
Quelles applications concrètes dans la vie est-ce que vous envisagez?
Oui, c'est à l'entreprise de parfum direct. Ça va être utilisé pour accompagner des parfumeurs, pour accompagner des créateurs de parfums. Donc la multisensorialité, c'est un domaine qui intéresse beaucoup les entreprises de parfums, surtout celles où je travaille, pour trouver un moyen de lier le parfum à d'autres sens. Donc on a la texture, les couleurs, les sons, etc. Et là, c'est vraiment de trouver avec les sons ce qui manquait dans leur base de données. Et après, c'est vraiment aider les parfumeurs, aider les personnes comme nous qui veulent sentir, de représenter un parfum grâce à des sons. C'est un moyen de communication. C'est ne pas verbaliser le parfum, mais plutôt le représenter avec du son.
Et comment vous êtes venu à cette idée-là? Parce que c'est vrai que quand on se dit, il faut associer l'odeur à un autre sens, on va plutôt penser à la vue, aux couleurs, etc. C'est pas du tout intuitif, en fait, d'associer odeur et son. Comment vous en êtes venu à ça?
Bien sûr, c'est pas très commun d'avoir des sons et des odeurs, c'est pas intuitif. Mais en fait, c'est l'entreprise qui a déjà lancé ce projet de trouver un son d'un parfum. En fait, c'était pour une vente en ligne. Et en ligne, on ne peut pas sentir un parfum. Donc, ils ont eu l'idée d'ajouter un son en disant « vous ne pouvez pas sentir, vous pouvez l'écouter ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ils veulent baser sur des tests, sur des expériences, sur de la science.
Mais du coup, il y a toujours une marge de manœuvre, entre guillemets, entre le son qu'on obtient, l'odeur. Enfin, on se dit qu'il y aurait plusieurs résultats possibles, en fait. Et que le résultat qu'on propose, c'est un résultat parmi tant d'autres.
ça va être quand même prouvé par la science, mais bien sûr, ça reste très subjectif, bien sûr. Puisqu'on travaille sur des mesures très subjectives aussi. Donc ça se revisite, ça se revoit, ça se complète.
Merci beaucoup.
L'acoustique a aussi un rôle à jouer dans le médico-social. Suzy Rousseau, par exemple, travaille sur un projet pour mesurer les difficultés sociales des personnes malentendantes.
Je m'appelle Suzy Rousseau, je suis en deuxième année de doctorat et je travaille à la fois au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans et un laboratoire en médical à Angers qui s'appelle le Mitovasque. Et j'étudie un système de capteurs dont le but est d'évaluer les interactions sociales et l'activité physique des personnes malentendantes.
Est-ce que les personnes malentendantes ont des problèmes d'interaction sociale ?
Oui, en fait, pour certains, même avec un appareil auditif, c'est difficile d'interagir dans des conversations quand il va y avoir du bruit en plus, quand il va y avoir beaucoup de personnes. Et des fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément possibles de percevoir par les professionnels de santé pendant les entretiens, les rendez-vous médicaux. Et donc, ce qu'on cherche à faire ici, c'est d'avoir un système qui puisse permettre de faire un test où on évalue de manière objective la qualité de vie des patients par les interactions sociales et l'activité physique.
D'accord, donc c'est pas un dispositif pour améliorer leur oui, c'est pour mesurer en fait les problèmes qu'ils rencontrent dans le quotidien, c'est ça ?
Oui, c'est un outil pour avoir un retour patient qui puisse aider à la prise en charge médicale.
Et parce que ces difficultés, elles ne sont pas forcément visibles dans l'entretien avec le professionnel de santé, parce que dans le cadre d'un cabinet isolé avec une seule personne, ces difficultés-là ne se rencontrent pas forcément, c'est bien ça ?
C'est ça. En fait, ça va être des difficultés qui vont être émises par les patients, mais du coup, c'est très subjectif et ça peut être difficile pour les professionnels de santé à évaluer. Et donc, grâce à ce système, ça pourrait peut-être permettre d'améliorer la prise en charge pour avoir un différent appareillage, par exemple, ou envoyer les patients vers des orthophonistes pour avoir une réadaptation.
Du coup, à quoi il ressemble concrètement le dispositif que vous êtes en train de construire ? Je vois des lunettes sur votre poster.
Oui, c'est un système de lunettes qui va être en fait les lunettes sont en circuit électronique et il va y avoir des capteurs qui sont intégrés dans le système et on récupère les signaux des capteurs ensuite.
Et alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés jusqu'à présent dans le développement de ces lunettes ?
Forcément, ça ne peut pas fonctionner du premier coup. On a fait le choix d'avoir peu de micros sur le système puisqu'on veut avoir une paire de lunettes qui est la plus discrète possible, mais du coup forcément sur les programmes ensuite c'est plus compliqué, on a moins d'informations, donc faut réussir à jouer avec ça quand même, ce qui n'est pas forcément simple.
Si j'ai bien compris, pour l'instant ça marche pas très bien quand on les met sur la tête de quelqu'un, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Les programmes qu'on utilise pour l'instant, ils fonctionnent bien avec les lunettes seules, mais le problème c'est qu'on veut que les lunettes elles soient sur la tête des patients.
C'est l'intérêt, effectivement.
Oui, et donc là ça fonctionne un peu moins.
Et qu'est-ce qui explique le fait que ça fonctionne moins quand c'est sur la tête de quelqu'un que tout seul ?
Alors en fait, c'est que la tête du patient ou la tête du mannequin, elle va agir comme un panneau de réflexion sur les ondes acoustiques, sur le signal qu'on reçoit. Et donc c'est pour ça que ça peut moins fonctionner, notamment la localisation de source.
Okay. Et pourquoi le choix de lunettes d'ailleurs pour la forme du dispositif ?
Le choix de lunettes, il a été fait pour avoir un système qui soit discret au quotidien, parce qu'on voudrait pouvoir donner le système aux patients et qu'ils le portent dans la journée, dans leur quotidien. Et donc c'est pour que ça soit le plus acceptable pour eux de le porter. Si on leur amène un grand casque qui fait un mètre sur un mètre, ils vont peut-être moins vouloir porter le système pendant une journée entière en allant faire les courses, en voyant leurs amis.
Et quand on fait un peu le tour des posters qu'il y a ici, il y a des sujets sur la musique, sur d'autres sujets que moi je serais bien incapable d'expliquer. Et vous, du coup, vous faites un sujet plus sur les besoins des personnes malentendantes. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier cet aspect-là?
Alors moi, j'ai fait cette thèse parce que j'ai travaillé sur le même projet durant mes études. J'ai fait l'ENSIM, une école d'ingénieurs au Mans. Et durant ce cursus, on fait beaucoup de projets étudiants et notamment des fois des projets de recherche. Et donc j'avais déjà travaillé sur ce projet-là et ça m'avait beaucoup plu. Et quand j'ai appris qu'il y avait cette thèse qui était financée, j'ai postulé.
Merci beaucoup.
Quant à Ulysse Roussel, il souhaite améliorer le confort sonore des personnes autistes.
Ulysse Roussel, je suis un chercheur à l'IRCAM STMS, en lien avec la Sorbonne. Ma thèse s'intitule « Améliorer la vie et le confort sonore acoustique des personnes atteintes, des personnes autistes ». Le but est de rendre leur vie plus agréable d'un confort sonore.
Et pourquoi les personnes autistes nécessitent une attention particulière justement sur ce confort sonore?
Le son est un des stimuli qui peut les mettre en crise. Là, moi, je me concentre sur des autistes qui sont parfois aussi non-verbaux. Et ces crises sont souvent créées par des interactions sonores et avec leur environnement. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pas forcément annuler le son comme le feraient des casques anti-bruit ou un casque de chantier. Ce qu'on voudrait, ce serait isoler la composante gênante de son pour le rendre plus acceptable et qu'il ne soit pas coupé du monde comme il le serait avec un casque d'isolation.
Est-ce qu'elle est identifiée, cette composante gênante du son?
Justement, c'est ça qu'on souhaiterait. On souhaiterait l'isoler et la comprendre, savoir si c'est un consensus parmi toute cette population.
C'est pas juste une question de volume du coup?
C'est pas forcément une question de volume. En fait, il n'y a pas beaucoup de données, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. Là, ce que fait une de mes directrices, c'est d'avoir plusieurs projets qui gravitent autour de cette compréhension de cette hypersensibilité sonore pour essayer d'élargir le champ de recherche qu'il y a là-dessus.
Quand vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de données, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui ont étudié ce sujet-là?
Oui.
Et pourquoi vous êtes porté dessus alors?
J'avais fait un stage au préalable avec Isabelle Vieux-Delmont. Et elle m'a présenté un postdoctorant qui faisait une recherche à peu près similaire, mais plus dans des évaluations de métriques plus acoustiques que moi. J'étais inspiré et ça me touche, parce que on aide des gens et en même temps on fait un peu de la musique, du son. Je trouve ça assez pertinent.
Et pourquoi vous estimez que c'est pas suffisant comme solution, le casque isolant?
Car ça peut accentuer leur hypersensibilité. C'est bien pour les aider sur un temps. Mais ça les isole encore plus qu'ils ne sont isolés dans leur vie de tous les jours.
C'est une solution court-termiste en fait?
Pas forcément, mais c'est pas pérenne. Ça peut accentuer, et ça a été mesuré que ça accentue l'hypersensibilité sonore.
Et alors, où est-ce que vous en êtes dans vos recherches du coup? Est-ce que vous avez des pistes actuellement?
Là, ça fait que 3 mois.
Ah oui, ça fait pas longtemps.
J'ai essayé de comprendre comment passe pour des personnes neurotypiques la gêne sonore, comme on l'a défini avec la Roussal et la Valence, qui définissent ce que c'est, un son est plus positif, négatif, excitant, calme. J'ai essayé de le prédire avec un modèle de machine learning. Avec ça, on peut essayer d'évaluer, par exemple, si je change une réverb, comment ça va influer sur la Roussal ou la Valence, etc., etc. Et en fait, je me rends compte que c'est pas top en fait, d'avoir un dataset qui est sur des personnes neurotypiques. On ne va pas dans le concret.
Alors, un dataset, un centre de données?
Un centre de données. Et du coup, là, en fin de semaine, là, je pars à Bergerac faire des mesures dans un IME, un institut médico-éducatif, où ils accompagnent des personnes.
Parce que les personnes neurotypiques, ça veut dire quoi?
C'est des personnes qui n'ont pas de problème à l'écoute.
Et vous avez commencé à étudier des données à partir de personnes qui ne sont pas sensibles au bruit?
Oui.
Pourquoi vous êtes parti de là?
Parce que je voulais savoir si déjà on pouvait réussir à faire un modèle qui arrive à prédire cette gêne consensuelle, ou cette évaluation consensuelle. Et c'est la seule chose que j'avais en fait. Il n'y a pas il y a rien comme données en ligne sur des personnes autistes et de mesurer.
Donc là, bientôt, vous allez aller travailler avec des personnes autistes, du coup?
Oui, je vais essayer d'évaluer, même beaucoup parler aussi aux aidants, aux proches aidants, pour savoir quelles sont leurs intuitions. Et là, c'est le début de ma thèse, et je trouve que c'est super intéressant d'y aller directement pour pas que je fonce dans le mur, voir en face quelle est la problématique.
Mais d'ailleurs, quand on parle de personnes autistes, en fait, c'est assez vague, parce que le spectre autistique, c'est très large. Est-ce que vous avez une idée du public un peu plus ciblé que vous voulez faire, ou c'est encore à déterminer ?
Pour l'instant, on s'intéresse au public d'une fondation avec laquelle on est en collaboration. C'est la fondation John Bost. C'est les personnes qui ont quand même besoin d'une assistance quotidienne.
Et qui se situent à différents endroits du spectre autistique.
Oui, mais une grande partie d'entre eux est non-verbale, ce qui fait que c'est... ce serait un grand bon s'ils arrivaient à définir leurs gènes pour leur compréhension.
C'est quand que vous allez à leur rencontre, du coup ?
Là, j'y vais mercredi. Okay.
Très bien, bon, on vous souhaite bonne chance, bon courage.
Merci bien,
merci beaucoup.
En plus des sessions posters des jeunes chercheurs, les JJCast, ce sont aussi des tables rondes. Nous avons pu rencontrer Mylène Pardouen, elle est archéologue du paysage et du patrimoine sonore. Elle intervenait sur une table ronde portant sur l'archéo-acoustique, l'étude des sons du passé. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Pour essayer d'expliquer un peu ce que vous faites, si j'ai bien compris, vous documentez sur les sons du passé, vous essayez de les recréer dans le présent. Est-ce que c'est bien résumé ?
Alors moi je suis archéologue du patrimoine sonore avec un très bref passage comme archéologue du paysage sonore. Donc en tant qu'archéologue du paysage sonore, j'étudie, j'analyse les ambiances sonores du passé et je me propose des modèles audibles. Pour ce faire, je deviens archéologue du patrimoine sonore et je vais collecter des sons du passé qui sont encore dans notre présent et ainsi récupérer les éléments essentiels pour écrire quelque part des histoires sonores du passé, des fresques sonores. Donc c'est bref, hein, ça fait 3 minutes, mais ça demande énormément de travaux. Et il faut les documenter. Donc je vais chercher des informations dans le passé, sur les textes, sur l'iconographie, des devis de travaux. Enfin, tout est vraiment intéressant parce que tout est parlant, sonnant. Et dans le présent, je fais ma collecte de sons que je vais mettre en regard pour pouvoir raconter cette histoire.
Et pour donner un exemple, peut-être redévelopper un exemple que vous avez fait pendant la table ronde sur les enclumes dans les films médiévaux.
Alors oui, quand on remonte dans le temps, les outils n'ont pas le même son parce qu'ils ne sont pas fabriqués de la même manière, ils ne sont pas utilisés de la même manière. Aujourd'hui, on a des outils qui sont plutôt électroniques ou pneumatiques ou électriques. Et dans le passé, on est plutôt sur des outils manuels. Mais même dans les outils manuels, ils n'ont pas le même bruit, même son. Donc, par exemple, une enclume médiévale, elle est petite, ça ressemble à un tas. L'acier avec lequel elle est faite n'est pas un acier aussi pur qu'aujourd'hui. Donc, il va sonner plutôt mat. Mais c'est pareil pour la hache. La hache, elle va sonner plus mat. Si elle est avec des aciers anciens qu'avec des aciers nouveaux. Donc le son, il est complètement différent.
Votre travail me fait un peu penser à une actualité récente, un chercheur qui a recréé la voix d'Henri IV. Pourquoi en fait recréer ces sons du passé ? À quoi ça sert ?
Alors pour Henri IV, je ne sais pas. Pour ce qui me concerne, ce que j'offre, c'est une nouvelle lecture de l'histoire. C'est-à-dire que lorsqu'on offre une sensorialité à un objet, un fait ou une situation, on n'a plus besoin de mots qui induisent une interprétation. Là, c'est votre interprétation avec ce que vous allez entendre. D'accord ? C'est comme si la traduction en langue étrangère. À chaque fois, on induit un biais par la traduction qui est comment j'interprète ce mot-là pour le donner à écouter à quelqu'un qui ne me comprend pas. Ce qu'il y a de bien quand on est dans le son, c'est qu'il est universel. Si vous entendez un marteau sur une enclume, pour tout le monde, ça sera un marteau sur une enclume. Et ce langage-là, il devient universel et il n'a pas besoin de traducteur. Donc moi, j'offre une lecture de l'histoire qui ne passe pas par le filtre de l'interprétation.
Et vous êtes intervenue en tant qu'experte sur le chantier de Notre-Dame. Là-bas, vous êtes découvert un profond intérêt pour les métiers de l'artisanat. Et une notion s'est mise au centre de travail, la sensorialité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lien entre sensorialité et artisanat ? Qu'est-ce que vous étudiez concrètement en fait là-dedans ?
Alors, quand un artisan travaille, il a l'outil, qui est le prolongement de son bras. Et l'outil va former la matière pour avoir un résultat, d'accord ? Pour travailler, il utilise la totalité de ses sens. C'est-à-dire qu'il va écouter si l'outil fonctionne bien, il va sentir si c'est la bonne essence ou si ça chauffe, par exemple. Hein. Il va sentir, il va tâter, il va palper son bois Et c'est la totalité de ses sens qui est en activité lorsqu'il pratique son métier. Mais même quand il utilise les outils contemporains. C'est-à-dire que nous sommes tous dans une sensorialité. Là, je vous ai entendu sur votre micro, hein, quelque part, cette sensorialité qui est la tension et l'appréhension du micro, elle est présente. Vous m'écoutez, donc vous activez une sensorialité.
Mais on peut la mesurer scientifiquement, cette sensorialité ?
Alors, moi, je suis sciences humaines et sociales. Donc, ce que je vais rechercher, c'est la restitution de tous ces critères-là. Maintenant, je ne sais pas ce que vous appelez mesurer. Parce que quand on part dans le passé, par exemple au XVIIIe siècle, on n'a pas les outils que l'on avait aujourd'hui et qui nous permettraient d'avoir des référents, en disant par exemple, c'est quoi un bruit fort au XVIIIe siècle ? On ne peut pas. Aujourd'hui, on a tous les outils qui vont dire, voilà, ça fait tant de décibels, ça fait tant de fréquences. Au XVIIIe siècle, il n'y a pas. On est obligé de s'appuyer sur des témoignages. C'est le provincial qui arrive au-dessus de Paris qui dit, mais Paris, c'est super bruyant. Il n'y a pas un Parisien qui vous dira, c'est bruyant. Par contre, le provincial, lui, qui n'a pas les mêmes référents, il vient, il dit, ça pue et c'est bruyant. Alors que pour le Parisien, non.
Ça n'a pas changé entre le passé et le présent, pour le coup.
Non, mais aujourd'hui on a les outils pour mesurer. Et dans le passé, on ne les a pas. Donc c'est difficile de faire un parallèle sur un ordre de grandeur. On ne peut pas mesurer. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire des comparaisons à l'extérieur, à l'intérieur, et puis faire des restitutions.
Et alors enfin, si on veut se renseigner un peu plus sur vos travaux, vous renvoyez à votre carnet de recherche Archéosons. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans ?
Plein de sons. Des sons, des explications sur comment on travaille, des petites analyses aussi. On explique par le menu nos travaux en général. Et ça vous permet de faire un beau voyage au pays des sons, en fait.
Et on peut s'y rendre sur Internet. Merci beaucoup.
Merci.
Pour finir, revenons sur un élément soulevé par Pascal Picard, le vice-président de la recherche de l'université, pendant son mot d'introduction.
En particulier, je voudrais attirer votre attention, c'est que votre formation doctorale vous a formé finalement à quelque chose d'essentiel, c'est la méthodologie basée sur le fait scientifique, la démonstration, la preuve. Voilà. Il y a une preuve que quelque part quelque chose démontre que. Voilà. Et ça me paraît important parce que je trouve qu'aujourd'hui, et je pense que vous serez d'accord avec moi, le fait scientifique est remis en cause et la science est attaquée de toutes parts. Et si vous avez regardé les derniers articles du Monde hier, où les GAFAM, les patrons des GAFAM commencent à remettre en cause même le rôle de l'université. Donc là, on est quand même embarqué, je ne sais pas trop où, mais c'est très inquiétant. Alors je trouve qu'avec votre formation doctorale, donc votre formation de méthodologie scientifique, hein, pour le coup, finalement, ça vous confère un rôle d'ambassadeur et de gardien de la science, parce que finalement, on en est arrivé là. Il y avait les gardiens de la galaxie dans certaines filmographies. Là, je crois que vous êtes les gardiens de la science et vous avez cette mission-là pour le futur. Donc je crois que vous allez devoir résister au vent mauvais, là, en démontant avec argument, parce que vous les aurez, toutes les irrationalités dont on nous abreuve tous les jours.
Nous avons pu brièvement revenir avec lui sur ce point.
On s'aperçoit qu'actuellement, les argumentaires qui sont fournis dans beaucoup de discussions, je pense au climat par exemple, où les faits scientifiques sont remis en cause. Donc le sujet de la science est un sujet qui se pose complètement au niveau de l'interaction science-société. Et je pense qu'il est important que les jeunes d'aujourd'hui soient conscients que la seule façon de pouvoir abonder sur une discussion, sur un sujet important, qu'il soit le climat, qu'il soit autre chose, c'est d'avoir des preuves, des éléments de preuve, et pas des éléments de fantasme. Et il me semble qu'actuellement, les discussions qu'on peut avoir sur le climat ou d'autres sujets sociétaux sont trop alimentées par du fantasme et de la fake news. Alors évidemment, ça pose problème sur sur ce qu'on peut alimenter dans le débat et quelles sont les décisions que les politiques vont prendre ensuite derrière s'ils ne sont pas bien informés correctement.
C'est la fin de cet épisode spécial de CEDACTU consacré au JJCAS, les rencontres jeunes chercheurs en acoustique organisées par les étudiants en acoustique de l'Université du Mans. Nous les remercions pour ce partenariat avec Radio Alpa. Quant à vous, j'espère que nos jeunes chercheurs et leurs recherches a priori complexes ont su dépasser leur opacité, réussir à vous parler et que vous n'écouterez plus jamais comme avant le bruit d'une enclume. On se retrouve demain, mercredi 28 janvier, sur Radio Alpa, bien évidemment.